Je vais vous parler du rétrécissement mitral sous plusieurs angles. D'abord, définition, quelques généralités, comment faire un diagnostic de rétrécissement mitral, et puis l'évolution du rétrécissement mitral, les étiologies et éventuellement le traitement. Alors, donc, sur un plan des définitions, le rétrécissement est dû à une diminution donc de la taille de l'orifice valvulaire, simplement parce que les commissures et de l'appareil se collent, se rétractent. Alors, sur un plan conséquences physiopathologiques, le rétrécissement a plusieurs conséquences. Les conséquences en amont, c'est-à-dire en avant la valve mitrale, et puis une conséquence sur le remplissage du ventricule gauche. Donc, on peut donc se retrouver avec une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, et du coup, l'oreillette va s'hypertrophier avec des risques de thrombose et d'embolie. On peut avoir également une hypertension artérielle dite post-capillaire avec résistance artérielle pulmonaire normale au début. Donc le sang stagne en amont, c'est-à-dire il stagne dans les poumons. Et puis dans un deuxième temps, l'hypertension artérielle pré-capillaire va augmentant, déclencher donc une pression artérielle pulmonaire moyenne plus importante, hein. Donc en gros, on se retrouve finalement avec une hypertension artérielle pré-capillaire. Alors donc en dehors donc de ces formes-là, il n'existe pas d'autres anomalies, notamment au niveau du ventricule gauche, parce que le ventricule gauche en fait, lui, il attend que le sang lui arrive. Les problèmes se font surtout en amont, avec un retentissement sur la tension artérielle post-capillaire et puis en définitive pré-capillaire. On peut se retrouver donc avec des conséquences au niveau du cœur droit. Le diagnostic peut se faire par la clinique. On peut suspecter un rétrécissement mitral à l'électrocardiogramme, à la radiothorax, ça se fait plus vraiment, mais surtout à l'échographie, ça se voit. À une époque, on faisait des cathétérismes, ça se fait plus vraiment. En tout cas, pour faire le diagnostic. La clinique, en fait, le patient va présenter une dyspnée d'effort. Il faut caractériser. Hein. Il peut être associé des palpitations, parfois des douleurs thoraciques à l'effort. Et puis, si ça, l'hypertension artérielle pulmonaire est installée, on peut avoir des signes de cœur droit, donc des hépatalgies d'effort. Les complications peuvent révéler donc le rétrécissement mitral par un œdème aigu du poumon. Ça commence très souvent à l'effort, hein. Et puis autre élément, les embolies pulmonaires aussi peuvent révéler le rétrécissement mitral. Donc les signes, c'est quoi? C'est dyspnée d'effort, palpitations, douleur thoracique, et puis en cas d'hypertension artérielle pulmonaire, hépatalgie, voire les complications, embolies, et surtout l'œdème aigu du poumon. Quand on palpe le patient au niveau thoracique, on peut sentir un frémissement cathère apexien qui témoigne d'un roulement diastolique. Il peut y avoir également une vibration dite de la valve mitrale qui témoigne de sa fermeture. Alors, à l'auscultation, et là, il faut avoir l'oreille, on entend un éclat du premier bruit du B1. Un claquement d'ouverture de la valve mitrale, un roulement diastolique et donc d'intensité qui peut varier, hein, donc en fonction de l'endroit où on fait l'auscultation, c'est maximum, c'est maximal au niveau de l'apex. Et le bruit, le roulement, irradie, comme on le dit dans l'aisselle, avec un renforcement protodiastolique et un renforcement télédiastolique. Alors, il peut y avoir, lorsque il y a une hypertension artérielle pulmonaire associée, donc une forme de complication, on a un éclat du B2 au niveau du foyer pulmonaire et un souffle systolique dit éjectionnel. Donc, c'est le fameux roof pum tata, éclat du B1, claquement d'ouverture de la valve mitrale, roulement diastolique, donc un souffle irradiant dans les selles, et donc en cas d'hypertension artérielle pulmonaire, un éclat du B2. À l'examen, il faut absolument rechercher des signes de stase pulmonaire, donc décrépitant en basse. Rechercher des signes infectieux, ça c'est systématique parce que le patient a une valvulopathie. Notamment, il faut aller chercher au niveau ORL et éliminer des risques qui peuvent apparaître sous forme d'endocardite greffée sur la valve mitrale. Au niveau de l'électrocardiogramme, il peut être normal, sinon on peut retrouver des signes d'hypertrophie de l'auricule ou de l'oreillette gauche, plus ou moins une hypertrophie du ventricule droit. Et puis dans certains cas, lorsque l'oreillette est dilatée, on aura ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, un aspect S1Q3, voire un bloc incomplet de branche droite, c'est-à-dire que le cœur s'oriente plus vers la droite, quoi, comme dans les embolies pulmonaires. S1Q3. Alors, au niveau de la radio thoracique, il faut le faire face profil, et puis les obliques antérieures droite, obliques antérieures gauche. La silhouette cardiaque sera dite en triangle, avec un aspect double au niveau du contour de l'arc inférieur droit. Et donc, on peut avoir un refoulement de l'œsophage, mais là, c'était avant, quand on faisait des œsophages barrités. Sinon, peut parfois avoir des calcifications de la valve mitrale. Donc au niveau pulmonaire, donc dilatation des veines pulmonaires, édème, signe d'œdème interstitiel avec des lignes de Kerlé B et une visibilité anormale des scissures, comblement du cul-de-sac pleural. Enfin, donc on aura ce qu'on appelle une dilatation des artères pulmonaires avec œdème alvéolaire ilaire et redistribution vasculaire vers les sommets. C'est évolué, hein, quand le rétrécissement évolue, on a cela. Alors au niveau de l'examen paraclinique, ce qui est très très important, c'est surtout l'échographie Doppler cardiaque. Et dans ce cas, bah, en fait, est visualisé, bien entendu, le rétrécissement, les flux sont étudiés, la pression au niveau de l'oreillette gauche, l'oreillette droite, on a un gradient, et puis on peut voir éventuellement des calcifications et confirmer, bon, ça se voit à l'ECG, mais en fait, voir des signes d'ACFA, une irrégularité liée à la fibrillation auriculaire. L'évolution du rétrécissement mitral, ben en fait, ça va vers les complications. Et les complications, ben elles sont de plusieurs ordres, hein. On peut avoir une gêne liée aux complications dites pleuropulmonaires, donc œdème aigu du poumon, embolie pulmonaire, dyspnée d'effort. Et puis, lorsque ça s'aggrave, hein, donc on va vers une insuffisance cardiaque. D'abord, gauche et droite, hein, avec le patient qui est finalement cyanosé, un éclat du B1, une hypertrophie du ventricule droit et des signes de cœur droit. Insuffisance cardiaque droite, donc hépatalgie, reflux hépato-jugulaire, œdème des membres inférieurs, œdème des clives. Le patient est cyanosé. Autre complication, les troubles du rythme. Donc, la fibrillation auriculaire. Autre complication, donc les embolies au niveau dans la grande circulation, c'est-à-dire qu'on peut avoir des emboles ou une thrombose de l'oreillette gauche qui va migrer au niveau artériel. Les complications que l'on peut citer aussi, ce sont les endocardites. Et puis, il faut faire attention, les rétrécissements peuvent s'accompagner d'œdème aigu du poumon, surtout favorisé par une grossesse, quoi. Donc la grossesse et rétrécissement, ça ne va pas forcément ensemble puisque l'accouchement, c'est une épreuve d'effort. Les étiologies sont de plusieurs ordres. On a avant surtout les rhumatismes articulaires aigus, on a des formes congénitales, on a à noter que certaines pathologies peuvent, comme on dit, simuler un rétrécissement mitral, donc la péricardite chronique, le myxome de l'oreillette gauche, et puis la cardiothyréose, donc l'hyperthyroïdie maligne. Voilà. Alors, il y a un syndrome particulier qu'on appelle le syndrome de Lutembacher, BACHER, Lutembacher, qui associe donc rétrécissement mitral et communication interauriculaire. Le traitement est chirurgical. Voilà, c'est de la chirurgie cardiaque. On n'entre pas dans le détail au traitement. Autrement, il y a un traitement symptomatique qui repose sur des règles hygiéno-diététiques, contrôle du poids, contrôle de la tension artérielle, des apports en sel, hein, et prévention de l'endocardite. Attention, attention, donc c'est un cœur fragile. Donc pour cela, il faut opérer, bien sûr, et puis prévenir des conséquences d'un œdème aigu du poumon et puis des endocardites, quoi. C'est essentiellement ça. Faire un bilan ORL complet à la recherche de risques de greffe bactérienne suite à des dents cariées. Voilà, donc le traitement est chirurgical. Je n'entre pas dans le détail. Je vous remercie, c'était une petite information destinée principalement aux infirmières et aux personnes qui travaillent au niveau des services d'information médicale sur le rétrécissement mitral. Bonjour, je vais vous parler de l'insuffisance aortique sous plusieurs aspects. L'idée principale, c'est de comprendre ce que c'est que l'insuffisance aortique, de comprendre comment faire le diagnostic, les étiologies et éventuellement le traitement. Sachant que pour le traitement, en fait, l'idée première, c'est la chirurgie cardiaque, quoi. Alors, pour ce qui concerne la définition, donc l'insuffisance aortique correspond à un reflux anormal de sang de l'aorte dans le ventricule gauche lors de la diastole dite ventriculaire, donc la diastole ventriculaire. Concrètement, lorsque le cœur se relâche, il est en diastole, le sang qui normalement part du cœur côté gauche vers l'aorte, ben reflue et revient dans le ventricule gauche. On parle d'une incontinence diastolique qui peut être de plusieurs origines. Par exemple, une disjonction d'une ou de plusieurs des commissures de la valve aortique, une dilatation de l'anneau aortique, ou dans le cas d'un traumatisme acquis, ou d'anomalies congénitales. On peut également avoir cela lorsque la valve aortique, dans le cadre d'une rétraction pathologique liée à l'évolution à l'âge, par exemple, en fait, il y a une part de fuite, hein, d'incontinence qui se met en place. Autre cause, la rigidité de l'appareil dit sigmoïdien en rapport avec une fibrose ou des calcifications. Donc, la conséquence de l'insuffisance aortique, c'est d'abord une conséquence au niveau du ventricule gauche, ensuite, ou des conséquences au niveau ventricule gauche, des conséquences au niveau artériel, c'est-à-dire en aval. Voilà, donc Si je prends au niveau du ventricule gauche, on a une augmentation du volume de l'éjection systolique. Le sang qui revient impose au cœur, au ventricule gauche, de faire un peu plus d'efforts pour compenser cette fuite-là, cette régurgitation. Donc le cœur va devoir travailler plus. Cela provoque à terme une dilatation du ventricule gauche et puis une hypertrophie, le cœur en quelque sorte se muscle. En aval, c'est-à-dire qu'au-delà de la valve aortique, il y a une chute de la pression artérielle dite diastolique et puis la pression artérielle systolique a tendance à s'élever, c'est-à-dire que le cœur tape beaucoup plus fort. Donc la systolique est importante, mais la diastolique chute. On peut avoir en parallèle au niveau des premières artères qui sont proches de la sortie du cœur, donc les artères coronaires, une baisse du flux avec pour conséquence une insuffisance coronarienne, donc un engorgement. Le diagnostic, alors pour faire le diagnostic, soit on passe par la clinique, soit on passe par la paraclinique. Sur le plan clinique, la maladie peut être découverte lorsqu'il n'y a aucun signe. On dit que le patient est asymptomatique, le médecin l'ausculte et il entend un souffle de fuite, quoi, de diastole. Alors, autrement, quand la pathologie évolue, le patient peut présenter des palpitations, d'efforts, et puis si ça va très très loin, on a ce qu'on appelle une insuffisance aortique avec une dyspnée d'efforts et des crises de dème aigu du poumon parce que le cœur gauche en fait fatigue. Et on peut également avoir des douleurs thoraciques de type angor. Et très souvent, ce sont des douleurs qui arrivent la nuit. Des angors nocturnes ou angors d'efforts, mais ça commence par des angors nocturnes. Alors, lorsqu'on examine le patient, on a l'interrogatoire, l'auscultation, la palpation. À la palpation, le choc de pointe peut être dévié en bas et en dehors. C'est-à-dire que le patient, on a la pointe là. Quand on met la main sur le thorax, on sent le choc, hein. Le choc cardiaque. Ça peut bouger, au lieu d'être sur le côté, ça peut bouger vers le bas et puis tourner un peu vers l'extérieur. Alors, à l'auscultation, on a un souffle qui est dit holodiastolique, c'est-à-dire qu'il est tout du long. Holo, ça veut dire tout. Holodiastolique, son siège est dit variable. C'est un souffle qui est plutôt aspiratif. On dit fait comme si on aspirait effectivement. Il est doux. Il est mieux perçu lorsque le patient se penche en avant et lorsqu'il fait une expiration. Donc le patient expire, se penche en avant, donc le cœur vient se collé un peu sur la paroi, on entend un souffle holodiastolique dit doux aspiratif. Sinon, on peut l'entendre surtout le long du bord gauche du sternum. On a un deuxième bruit parfois qui est augmenté, tout dépend de l'étiologie. Et donc, on peut également avoir un souffle systolique fonctionnel d'accompagnement situé surtout à la base et au maximum mésosystolique. Donc, en fait, comme la valve aortique est incontinente, le sang régurgite vers le ventricule gauche, donc on a ce souffle holodiastolique doux aspiratif, et le cœur fait un plus gros effort pour pousser cette masse vers l'aorte. On a un souffle systolique dit fonctionnel voilà, d'accompagnement, comme on dit. On peut avoir un roulement présystolique dit de Flint et parfois un bruit de galop dans le cadre d'une insuffisance aortique très évoluée. Alors, l'examen artériel va montrer un abaissement important de la pression artérielle diastolique qui peut être en dessous de 50 mm de mercure dans les formes graves et une hyperpulsatilité des vaisseaux, notamment au niveau du cou. Alors, à une époque, lorsque il y avait encore la syphilis et que certaines syphilis touchaient l'aorte, il y a une histoire comme ça d'une dame qui était dans un théâtre en train de regarder un spectacle et derrière elle un médecin. Et il regardait cette dame-là. Elle avait un chapeau avec des plumes et en fait les plumes étaient pulsatiles. Et il a pu conclure ainsi par une hyperpulsatilité des vaisseaux du cou qui jouait donc sur la tête que cette dame-là avait une insuffisance aortique, l'hyperpulsatilité des vaisseaux du cou. Alors sur le plan électrocardiogramme, il peut être normal. Parfois, on va voir ce qu'on appelle des signes d'hypertrophie du ventricule gauche avec une surcharge diastolique qui se traduit par une onde T dite positive. Ça se voit surtout au début. Sinon, après, lorsque ça évolue, on a une inversion de l'onde T au niveau des dérivations dites précordiales, gauche, avec des troubles de la conduction, donc conduction sous la forme de bloc incomplet de branche gauche ou de bloc de branche gauche complet dans les insuffisances aortiques sévères et anciennes. Sur le plan radio de thorax, le cœur peut être dilaté avec une hypertrophie du ventricule gauche, un allongement de l'arc inférieur gauche et un arc moyen concave. Donc au niveau gauche, en fait, normalement on voit un renforcement, mais là on aura au niveau de l'arc moyen un aspect concave et l'arc inférieur gauche qui s'allonge. On peut avoir un déroulement ou une dilatation de la crosse aortique et puis des calcifications. On peut voir ça. Donc, autrement, l'examen le plus important, c'est l'échographie cardiaque avec Doppler qui peut mettre en évidence un fluttering de la valve mitrale, du septum interventriculaire, une dilatation du ventricule gauche. On voit bien l'aorte, l'épaississement des sigmoïdes aortiques et la cause, hein, on peut également voir les causes de cette insuffisance aortique, notamment le rhumatisme articulaire aigu. Alors, le Doppler permet d'évaluer les pressions, mais aussi les débits, le débit de la quantité de fuite, quoi, la volumétrie de fuite. L'évolution de l'insuffisance aortique, bon, tout dépend de l'étiologie, ça peut être calme. Mais très souvent, lorsque ce n'est pas soigné par de la chirurgie, on va progressivement vers une insuffisance du ventricule gauche, très progressivement, avec l'instauration d'une insuffisance ventriculaire gauche, hein, œdème aigu du poumon, angine de poitrine. Et les complications, bah, en fait, ça peut être l'insuffisance ventriculaire gauche, ça peut être l'endocardite, et puis les troubles de conduction, voire la mort subite. Troubles de conduction et mort subite. Donc il faut soigner le plus tôt possible. Aujourd'hui, on a des techniques de chirurgie cardiaque qui sont très spécialisées, je n'en parle pas, ne maîtrisant pas ce domaine, n'étant pas chirurgien. Étiologie donc de l'insuffisance aortique. Les causes, ça peut être l'endocardite, une dissection de l'aorte, les traumatismes, accident de la voie publique, barotraumatisme suite à défenestration. On a d'autres formes d'insuffisance aortique plutôt chronique, hein, donc le rhumatisme articulaire aigu, la syphilis, hein, comme je le disais là tout à l'heure, syphilis c'est rare maintenant, même si on a des cas qui reviennent sur Paris notamment. Et puis d'autres causes liées à des maladies de système, par exemple la maladie de Marfan, c'est une hyperlaxité des téguments. Et donc la maladie de Marfan, on a l'anévrisme de l'aorte ascendant qui peut aussi causer donc l'insuffisance aortique, la spondylarthrite ankylosante. Et je l'ai cité, les traumatismes thoraciques. Donc l'étiologie, attention à bien penser endocardite. Hein. Endocardite, notamment, dissection de l'aorte, et puis tout ce qui est traumatisme ou les maladies des connectivites, donc maladie de Marfan, rhumatisme articulaire. Pour ce qui concerne le traitement, il est très 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 important d'éviter les greffes d'endocardite, donc bactérienne. Après, le traitement dépend de la cause. En cas de dissection aortique, en cas de valvulopathie, en cas d'endocardite, bien entendu, le traitement sera adapté. Soit des traitements symptomatiques, soit des traitements étiologiques. Dans tous les cas, sur les traitements symptomatiques, les règles hygiéno-diététiques sont très importantes. Donc attention au sel, attention au foyer infectieux, contrôle du poids, donc surcharge pondérale. Et donc, dans tous les cas, l'idée, c'est d'éviter la greffe bactérienne lorsqu'on a une insuffisance aortique. Voilà, donc je vous remercie. C'était quelques définitions sur l'insuffisance aortique.